Ah, mes frères bien-aimés, notre Seigneur est vraiment étonnant. Qui d'entre nous aurait osé renseigner dans les évangiles une telle histoire où il est fait l'éloge d'un homme fourbe? Personne, bien sûr. Et pourtant, le Christ le fait. En fait, et nous allons le voir, il ne veut bien entendu pas du tout encenser l'immoralité de ce personnage. Mais alors pourquoi a-t-il recours à cette parabole qui le laisse penser? Pourquoi n'énonce-t-il pas clairement les choses? Eh bien tout simplement, et c'est là le premier enseignement de cet évangile, parce qu'il parle à des êtres humains, autrement dit des êtres doués d'une intelligence. Aussi, il ne nous inocule pas la vérité en nous répétant des slogans courts et simples à la manière d'un lavage de cerveau. Mais il nous délivre la vérité de telle manière qu'il faut que nous utilisions notre intelligence pour l'atteindre. Tout est là dans ses paroles, mais il faut fournir un effort de compréhension. Et si Jésus agit ainsi, c'est déjà parce que cela fait honneur à notre intelligence humaine. Mais c'est surtout parce que la vérité est mieux établie dans un esprit quand elle est lentement ruminée que quand elle est simplement énoncée. Voilà pourquoi on demande aux élèves en maths non seulement d'apprendre les théorèmes, mais aussi leurs démonstrations. Ce serait bien plus rapide de dire aux élèves « Le théorème de Pythagore, c'est pas compliqué. AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. » Oui, mais le risque serait alors qu'après quelques minutes, ils s'embrouillent. C'était AB plus BC ou AC plus BC? Alors que s'ils font eux-mêmes la démonstration, cela prend plus de temps, mais cela leur permet de retrouver le théorème à coup sûr. Enfin, en principe, quoi. En tout cas, voilà pourquoi notre maître nous enseigne avec des discours qui demandent un peu de réflexion, car alors, nous les intégrons mieux. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agit là d'une parole de Dieu, une parole d'un entendement supérieur. Donc, pour la comprendre, il est évident que notre intelligence humaine a besoin de faire tourner ses méninges. Mais voyez, même après ça, la parole de Dieu est souvent encore énigmatique. Et il s'agit alors de demander l'aide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, pour qu'il finisse d'éclairer ce qui, à la seule lumière de notre raison humaine, reste obscur. Bon, et maintenant venons-en au sujet principal de cet évangile, la parabole. Et balayons tout de suite deux interprétations complètement fausses qui pourraient en surgir. Puisque Dieu nous donne en exemple ce gérant, nous avons le droit d'être malhonnêtes pour arriver à nos fins et nous avons le droit de ne vivre que pour l'argent. Ce sont là deux conclusions totalement fausses et c'est le Christ lui-même qui l'indique dans les versets qui suivent. Pour répondre à la première interprétation, il déclare « Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ?» Nous signifions par là qu'il convient d'être honnête dans les petites choses pour obtenir le ciel. Et pour contrer la deuxième interprétation, il affirme « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, ce qui a le mérite d'être clair. » Mais alors, qu'est-ce que nous devons imiter chez cet intendant aux mœurs peu recommandables? Eh bien, c'est tout simple, c'est sa prévoyance. Il ne pense pas qu'à sa vie présente, même s'il l'aime bien puisqu'il en profite au maximum en ne travaillant que très peu. Mais il pense également à sa vie future. Et c'est ainsi qu'il anticipe les choses et qu'il se ménage, avant que la catastrophe n'arrive, une belle porte de sortie. Voilà ce que nous devons acquérir, cette attention à la vie à venir. Alors bien sûr, pas seulement à celle qui vient après un malheur temporel, comme la perte de l'emploi pour le gérant, mais surtout à celle qui viendra après le drame métaphysique de la mort que nous connaîtrons tous. Oui, notre attention doit tendre vers cette vie après la mort. Et donc, en prévision de cela, nous devons assigner comme but principal à notre vie terrestre celui de préparer cette vie céleste pour qu'elle soit la plus belle possible. Alors cela n'empêche pas que nous apprécions la vie sur terre. C'est même un devoir, puisque cette vie est un don de Dieu. Oui, nous devons nous délecter de tout ce qu'il y a de bon ici-bas. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit au détriment de la vie du ciel, que nous soyons tellement embourbés dans les affaires de ce monde que nous en oublions les affaires du paradis. Et plus que de ne pas les oublier, ces affaires du paradis, il faut que nous y travaillions comme on travaille aux affaires de ce monde, c'est-à-dire en nous creusant la cervelle pour trouver la meilleure manière de les faire fructifier. Malheureusement, reconnaissons-le, nous ne le faisons pas. Et c'est là ce que nous reproche notre maître. Dans l'administration des choses humaines, nous dit-il, vous prenez des dispositions prudentes à l'égard de vos biens, et vous avez un soin extrême à vous ménager un lieu de refuge et de repos dans le cas où votre travail vous serait ôté. Et c'est très bien, mais le problème, c'est qu'en ce qui concerne les choses divines, vous ne savez pas prévoir ce qui pourra vous être utile pour l'avenir. Et c'est là un grand tort. Et oui, c'est bien nous, ça, mes frères. Pour gonfler notre compte bancaire, nous épluchons toutes les démarches administratives possibles qui nous permettraient d'avoir un crédit à taux plus bas, de payer moins d'impôts ou que sais-je. Mais pour ce qui est de notre compte céleste, nous n'y faisons guère attention. Oh, si, nous y pensons quelquefois et nous allons à la messe le dimanche pour être tranquilles. Mais nous sommes loin de faire tout ce qui serait possible. Et en particulier, nous ne suivons pas le conseil que le Christ nous a donné pour entrer au ciel à coup sûr. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. En d'autres mots, et j'emploie ceux de Saint Grégoire le Grand, le Christ nous prévient. Si les hommes ne veulent pas se trouver les mains vides après leur mort, qu'ils placent avant leur dernier jour leur richesse dans les mains des pauvres. Et alors, les pauvres introduiront dans le ciel ceux qui ont soulagé leur indigence en partageant avec eux les biens de la terre. Quelle nouvelle, mes frères! Lorsque nous nous pointerons à la porte du paradis, ceux qui vont nous y accueillir, ce sont toutes les personnes que nous aurons aidées sur le plan matériel au cours de notre vie terrestre. Ce sont elles qui seront alors notre laissez-passer. Ah, mes frères, j'imagine que vous comme moi, nous n'avons pas assez de pauvres dans notre carnet d'adresses. Il faut donc que nous nous reprenions sur ce plan-là. Vous imaginez s'il n'y avait personne pour nous attendre à la porte du paradis ? Quel drame et quelle honte ce serait ! Bien plutôt, préparons-nous un comité d'accueil dithyrambique. Voyez qu'il y ait au moins une cinquantaine de personnes pour nous faire une hola devant les portes du paradis. Oui, concoctons-nous ce comité d'accueil en distribuant largement nos avoirs à qui en a besoin. Et quand nous le faisons, que ce soit avec joie, avec simplicité et surtout sans aucun dédain et sans retour attendu. Car comme l'exprime si bien le même Grégoire le Grand, si nous entrerons dans les tabernacles éternels, grâce à l'affection reconnaissante de ceux que nous aurons aidés, lorsque nous leur donnons quelque chose, nous devons être convaincus que c'est moins une aumône que nous faisons à des pauvres que des présents que nous offrons à nos futurs protecteurs. Amen.